façon l'hiver. Ainsi va le si, elle aimait pourtant. Ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. 7 mois. 7 mois que je n'ai pas fait cette émission. Je suis donc vraiment émue, très émue, de tous vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison d'Ainsi va la vie, avec aux manettes un nouveau technicien qui m'accompagne, Yanis. Merci Yanis d'être avec moi. Vous constaterez que l'émission a un petit peu évolué par rapport aux autres années, mais je ne vous en dis pas plus. Je préfère tout de suite vous présenter mon nouvel invité pour démarrer cette saison 2020-2021. Il s'agit de Stéphane Després. Bonjour Stéphane.
Bonjour Irène.
Alors, qui est Stéphane Després ?
Je suis un Toulousain, d'abord, puisque je suis né à Toulouse en 1962. J'ai vécu mon enfance dans la campagne toulousaine, à la Salvetat-Saint-Gilles, qui maintenant est une ville, mais qui à l'époque était vraiment un petit village de campagne. J'ai ensuite fait mes études au lycée Saint-Sernin, j'ai passé mon bac à Fermat, et j'ai étudié la philosophie ensuite à l'université Toulouse-Mirail. Donc voilà, ma première définition de moi-même serait que j'ai quand même fait un parcours, tout mon parcours d'études à Toulouse.
Un parcours littéraire plutôt.
Oui, bien sûr. Oui, j'étais.
Alors pourquoi vous aviez choisi la philo ? Vous aviez une envie d'être professeur ?
Oui, j'aimais beaucoup la philosophie, mais et aussi la littérature. Donc j'hésitais un peu entre les deux. La philosophie, c'est plus abstrait, c'est plus du raisonnement, mais j'avais les deux centres d'intérêt pour la lecture en gros.
Vous étiez déjà très jeune un gros lecteur.
Alors j'ai à partir de la seconde, oui, j'ai commencé à lire par moi-même des textes qui n'étaient pas forcément au programme de l'école. Je me rappelle, j'ai beaucoup aimé Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire. Je lisais Roland Barthes, voilà. Ça m'a après, j'ai eu un très bon prof de philo au lycée Saint-Sernin. Donc je pense que c'est le déclic pour beaucoup d'élèves, ça, le professeur de
Bien
philosophie.
Sûr, évidemment.
Et puis parallèlement, alors, mes parents, nous qui n'étaient pas musiciens du tout, nous ont fait avec mon frère apprendre la musique. Alors, avec des professeurs, on n'a pas débuté du tout par le conservatoire. Mais dans les villages voisins, il y avait des vieilles dames, professeurs de piano. Et donc, on a joué petit de l'âge de 7 ans à une quinzaine d'années, un peu. J'allais dire de manière quelquefois décousue du piano, mon frère s'est mis à la basse. Et puis à l'âge de 15 ans, naturellement, est devenu admiratif des groupes de l'époque, donc des années 70. Et on s'est décidé à monter un groupe. Et de cette passion, j'allais dire, adolescente, là, c'est finalement devenu un métier autant pour moi que pour mon frère.
Donc, deux musiciens. Vous êtes que deux dans la famille ?
Oui, nous sommes deux.
Vous êtes proches en âge ?
Oui, nous avons 2 ans de différence, je suis l'aîné.
D'accord, donc vous avez vraiment grandi ensemble, vous avez fait la musique ensemble et vous avez décidé de commencer votre carrière professionnelle ensemble.
Oui, du premier groupe, alors on devait avoir 15-16 ans, je pense.
Donc au lycée ?
Au lycée, jusqu'au premier disque qui était donc enregistré en 1985 et sorti en 86. Oui, nous avons tout le temps joué ensemble. Et pour la suite aussi, d'ailleurs, j'ai toujours travaillé avec mon frère à des toutes petites exceptions près.
Alors, vous dites notre premier disque. Alors, c'est vrai que beaucoup de jeunes font de la musique, peu font des disques. Racontez-nous un petit peu cette aventure. Comment c'est arrivé ?
D'abord, c'est une histoire, bien sûr, de passion, d'obstination aussi, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, évidemment. À réussir, j'allais dire professionnellement, dans la musique. Et notre première idée, lorsqu'on a 15 ans, c'est qu'on aime Pink Floyd, Genesis, et c'est d'imiter ces groupes-là. On n'avait pas l'idée de faire un disque. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je dirais jusqu'à l'âge de 22-23 ans, on a joué dans divers groupes et on nous faisions des reprises. Donc,
On faisait les balles, les choses comme ça.
Alors, nous avons très peu fait de balles, à proprement parler. On en a fait quelques mois, mais on était beaucoup tournés vers la musique jazz et jazz-rock, et ce qu'on appelait ensuite fusion, mais qui s'appelait jazz-rock dans les années 70-80. Et donc, on jouait du Chick Corea, du Breaker Brothers, Bobby McFerrin, enfin voilà. Et quand on joue cette musique, c'est vrai qu'on est, on est un peu éloigné de la variété, j'allais dire, qu'on a fait par la suite. Mais donc au début, dans les années 70, on a tourné dans des groupes de jazz rock où la musique est instrumentale essentiellement, il n'y a pas de chant. Je me souviens, on avait fait même en 80 ou 82 le premier indicatif de TSF 102. Qui était une des premières radios libres, donc je pense que ça va être en 82.
Oui, tout de suite après l'élection de Mitterrand.
Voilà,
oui.
Voilà, où les radios se sont libérées.
Bien sûr.
Et donc c'est un morceau instrumental qui avait été choisi. Puis le groupe s'appelait Logos à l'époque, et on avait fait quelques concerts. Alors c'était vraiment très jazz, on jouait du Miles Davis, voilà. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Mario, du groupe Image. Mais nous n'avons pas commencé immédiatement par les Démons de Minuit, mais nous avons continué notre parcours de groupe qui faisait des reprises. Mais alors là, ça avait un peu évolué dans le style, puisqu'on jouait du Al Jarreau, du Stevie Wonder, toute la musique West Coast américaine. Pas grand monde faisait ça à Toulouse à l'époque. Et par là, je dirais que dans ce parcours, on a introduit le chant dans notre musique, alors qu'avant, on faisait de la musique instrumentale. Et c'était une époque aussi où il y avait des endroits pour jouer à Toulouse. Alors, les Toulousains qui sont un peu âgés s'en souviendront, mais il y avait le Métropole, rue de l'Industrie, il y avait le Shadok qui était pas loin de Desquirol, il y avait le Tilt, rue d'Enfer Rochereau, qui organisait des concerts, il y avait la péniche d'Eric, de Les Riches Coffee. Donc c'était des endroits où on pouvait jouer. Et ce groupe, donc, composé de cinq musiciens, dont moi et mon frère, s'est mis à tourner. Quand on jouait, les gens, c'était plein. Voilà. On a vu que l'apport du chant, quand même, attirait beaucoup plus de monde. Et puis on était aussi un peu les seuls à faire ce
genre chantait.
De musique.
Qui chantait?
C'était Mario Ramsamy, qui est donc le chanteur des Démons de Minuit par la suite et du groupe si connu, Image.
Ouais. Et donc, les Démons de Minuit, vous en avez fait la musique, je crois.
Non, alors, c'est mon frère qui a fait la musique.
Oui.
Moi, j'ai écrit les premières paroles. C'est une histoire assez particulière, les Démons de Minuit. Donc, au bout d'un an ou deux de tournée avec le groupe Image, qui s'appelait May à l'époque, et pas du tout Image, mon frère s'est un peu lassé, il a dit on ne va pas faire que des reprises, on va écrire quelque chose. Et il a passé des mois à travailler et il a écrit la musique des Démons de Minuit. Et bien sûr, à l'époque, on ne reprenait que de la musique anglo-saxonne. Donc notre première idée a été d'écrire un texte en anglais. Et le texte, le titre, c'était Love Emotion Tonight. Et après, nous sommes allés à Paris présenter ce morceau, maison de disques, avec ce texte anglais. C'était pour nous une évidence, en fait.
Le texte anglais, oui. Que vous aviez écrit.
Voilà, que j'avais écrit avec le guitariste, le chanteur. Et après s'être fait repousser des plus grosses maisons de disques, c'est-à-dire de presque toutes, je pense, à l'époque. Quand on venait de Toulouse, bon, on était regardé un peu de haut, malgré qu'il y avait déjà pas mal de succès, bien qu'il y ait pas mal de succès toulousains déjà.
Oui, oui, oui.
Mais il y avait quand même un parisianisme dans les maisons de disques.
Oui, mais enfin, c'est vrai qu'à dans les années 80, je le dis en me tournant vers les jeunes présents dans le studio, dans les années 80, on a eu beaucoup de Toulousains qui chantaient de la variété et qui avaient du succès. Ça a été vraiment cette époque. Dès qu'on avait un Toulousain, on disait encore un Toulousain qui a du succès. C'est vrai qu'il
y a une décennie, une vraie décennie, je dirais, de 80 à 90 ou 15, de succès toulousain, comme il y avait dans d'autres villes aussi, avec un autre style, à Rennes. Et je crois que c'est par dizaines de millions, quand même, les disques vendus dans cette décennie à Toulouse, entre les différents
bien sûr, les différents artistes, oui.
Et donc, c'est Jean-Pierre Madère qui avait pris, qui était un ami du batteur Jean-Louis Puget, qui avait pris un rendez-vous dans le label Flarenache à l'époque, et qui était le plus petit de la liste, en gros, mais qui avait le plus oreille aussi, peut-être, et qui a détecté un tube dans cette chanson, mais qui lui a dit... Alors, c'est très bien, mais il faudrait le faire en français. Et je me souviens que nous n'étions pas vraiment d'accord. On se disait, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Mon frère avait dans l'oreille les rythmiques anglo-saxonnes. Et en fin de compte, c'était la bonne idée. Donc là, c'est Richard Seff qui a fait le texte français. Et je pense que c'est ce qui a fait le très grand succès de cette chanson.
Connaît, oui.
Parce que si elle était sortie en anglais, elle aurait fonctionné parce qu'elle était dans l'esprit du moment, mais elle ne serait pas restée dans les mémoires. Alors que le texte français a fait que c'est maintenant un tube, un classique de la variété. Bien sûr, je rassure tout le monde, on ne s'en doutait absolument pas.
Et ça ouvre des portes.
Oui, bien sûr, ça a ouvert des portes, oui. Avec un poids quand même, parce qu'après il faut refaire aussi bien, où là c'est quand même très difficile.
Et vous avez continué à collaborer après avec Mario?
Alors, non, après Les Démons de Minuit, mon frère a quitté le groupe d'Image. Et il y a eu des histoires avec la maison de disques qui ne voulait pas faire voyager 5 personnes. Voilà. Donc, mon frère a fait quand même toute la promotion des Démons de Minuit avec le groupe Image. Il n'était que 3. Mais après, il a dit non, je vais revenir avec mon frère, on va faire autre chose. Voilà. C'était quand même assez courageux. Et là, nous avons repris le travail en commun. Nous avons fait un autre groupe qui s'appelait Alix. Comme vous dites, ça ouvre un peu des portes, un succès, parce qu'on a été appelé à l'époque par M. Claude Carrère, qui était le PDG d'une immense maison Carrère. C'était très marrant d'ailleurs, parce qu'un soir, le téléphone a sonné. Moi, j'étais avec mes parents à table et ma mère est allée décrocher. Et quelqu'un lui a dit, « Monsieur Carrère, voudrait vous parler. » Et puis, donc nous étions à table et elle me dit, « Il y a Claude Carrère au téléphone. » On ne l'a pas cru du tout.
Bien sûr,
on s'est dit, tu as encore... C'est parce qu'à l'époque, beaucoup de gens appelaient pour nous... Bon. On a pris ça pour des plaisanteries. Et non, c'était vraiment lui qui nous a dit, écoutez, je sais que vous n'êtes plus avec Image, il faut monter un autre groupe, venez me voir à Paris. Donc, on y est allé. Et mon frère avait un morceau déjà prêt. Et on a recruté un ami d'enfance, chanteur, Henri Rousse, et on a sorti un disque donc, chez Carrère avec un groupe qui s'appelait Alix. Donc ça devait être... un an et demi ou un an après Les Démons de Minuit. Donc à l'époque, je me souviens, on avait vendu 70 000 disques. On était passé sur Énergie. Mais pour l'époque, c'était un échec. C'était ce qui aujourd'hui paraît absolument fantastique était un échec. Donc Claude Carrère, qui était un personnage qui était vraiment le patron, qui connaissait tous les étages de sa maison de disques, mais qui était très franc et voilà. Que je respecte beaucoup, parce qu'il a toujours été très franc, nous a dit « Non, ça ne va pas, on arrête avec ce groupe, il faut en faire un autre. » Et un camarade de balle, j'ai eu très peu de balles que j'avais fait avant tout ça, m'avait donné une cassette de Cathy, donc qui est devenue la chanteuse de Pacifique.
De Pacifique, oui.
On l'a écoutée, mon frère... c'est moi qui ai écrit un premier morceau pour Pacifique, et on lui a proposé, oui, il s'est trouvé que sa voix collait très bien, mais avec mon frère, déjà, à l'époque, on ne voulait plus faire de groupe, on voulait simplement composer, plutôt rester en studio, écrire pour les autres. Mais Cathy n'a pas voulu, elle ne se sentait pas le courage de partir vraiment toute seule, donc on a refait un groupe qui s'appelait Pacifique, toujours chez Claude Carrère, donc sur le premier disque qui est sorti dans les années, je pense que c'était en 88, qui s'appelait Sur les ailes des Alizés, et qui n'a pas marché. Et donc on a Entre-temps, mon frère a écrit « Quand tu sers mon corps » et on est revenu chez Claude Carrière en lui présentant le deuxième morceau. Et là, c'est encore une anecdote assez marrante. Il a écouté, il a dit pour moi « Sur le mauvaise face B ».
Et pourtant, ça a donné
un disque d'or quelques mois après. Oui, voilà. Oui. Et on lui a dit « Claude, c'est pas possible, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on croit à ce morceau. Est-ce qu'on peut s'en aller, en gros, et aller se faire pendre ailleurs ?» voilà. Et là, il a été très fair-play. Il a dit « Bon, oui, allez-y. » Visiblement, il n'y croyait pas.
Mais il vous a fait confiance.
En tout cas, il nous a laissé partir sans histoire et voilà, et sans procédure laborieuse, parce qu'il y a toujours les histoires de contrats. Voilà. Donc, il a été très bien à cet égard. Quelques mois après, on a signé dans la maison de disques Vogue, et un an après, c'était devenu un très gros tube.
Bien sûr,
qu'on connaît. Un très gros tube, voilà. Et pour finir cette histoire-là de Claude Carrère, il nous a rappelé quand même ce qui est assez rare dans ce métier. Il a dit « Je m'étais trompé ». J'avais pas les yeux des 15 ans, je me suis trompé, revenez chez moi, je vous donne le double. C'était un patron à l'ancienne, hein, c'était... Je vous donne le double de ce que les autres vous donneront de toute façon. Et en plus, nous n'avions pas de contrat chez Vogue au-delà d'un simple 45 tours. Donc nous aurions très bien pu revenir chez lui, mais nous avons décidé de rester fidèles quand même aux gens qui avaient cru. Et il avait apprécié aussi cette attitude.
On va faire une petite pause sur votre vie, je le dis entre guillemets, parce que je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas sur ses débuts de carrière. Et je voudrais vous poser quelques questions sur la situation actuelle, oui. Stéphane, par rapport évidemment à tout ce que l'on vit actuellement. Je vais vous donner une phrase et je voudrais savoir ce qu'elle évoque pour vous. Si je vous dis « l'enfer, ce n'est pas les autres ».
Bon, alors vous parlez un ancien étudiant en philosophie, donc ça évoque bien sûr quelque chose. C'était une phrase tirée du huis clos de Jean-Paul Sartre.
Oui, c'est l'enfer, c'est les autres.
Voilà, qui est à l'envers, qui dit l'enfer, c'est les autres, parce que, sans rentrer dans une philosophie très technique, parce que, comme il disait, si on est pris par quelqu'un à regarder à travers le trou d'une serrure, on éprouve de la honte. Et donc, on est jugé par l'autre et on est constitué comme objet par l'autre. Donc, finalement, l'enfer, c'est le jugement d'autrui. Alors, moi, je pense les deux choses, c'est-à-dire que l'enfer, c'est les autres, et l'enfer, c'est pas les autres. Alors, je m'explique. L'enfer, c'est les autres. Alors là, je pense surtout au régime totalitaire, par exemple, qui viennent massacrer des populations totalement innocentes. Et là, effectivement, vous pouvez vous retrouver... faire partie d'une population qui est pourchassée, massacrée, exterminée. Les exemples, quand même, sont nombreux. Et là, vraiment, l'enfer, c'est les autres. C'est quand même une idéologie qui a gagné des esprits et qui vous met à mort, vous menace, vous extermine. Donc, je pense que ça peut être des groupes humains, oui, l'enfer peut venir des autres. Bien sûr, il faut espérer que ces cas-là restent des cas d'histoire, mais... D'autre part, alors je suis très freudien, moi, c'est-à-dire je pense que l'enfer, c'est aussi pas les autres, mais c'est soi-même. Et donc c'est sa conscience, parce que pour faire une distinction très, très simple que fait Freud, il dit, voilà, il y a la peur et il y a l'angoisse. Alors la peur, vous pouvez toujours fuir. Si on vous menace, vous fuyez, et donc vous éloignez de la menace. Et vous retrouvez votre paix. Mais vous ne pouvez pas fuir l'angoisse parce qu'elle est à l'intérieur. Donc vous ne pouvez absolument pas échapper à votre conscience et à votre angoisse. Alors, voilà, cette phrase, elle marche dans les deux sens, je pense. Mais cela dit, pour finir quand même, les autres, ce n'est pas que l'enfer, c'est ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait ajouter comme troisième possibilité. C'est aussi la joie, le partage, la reconnaissance.
Enfin, heureusement.
Et l'amour.
Et l'amour. On a vécu, Stéphane, ce que l'on appelle désormais la vie d'avant. Qu'est-ce qui vous manque justement sur cette vie d'avant ?
Moi, je ne crois pas du tout à la vie d'avant et la vie d'après. Ça devait être déjà le cas après les banques, les faillites bancaires de 2008. À chaque événement un peu global, il y a toujours une vie d'avant et d'après. Et puis on s'aperçoit que quelques temps après, tout reprend son cours un peu... un peu naturellement. C'est bien expliqué par Proust, ça. Je pense que c'est dans la Recherche du temps perdu, il explique le cas de celui qui va se battre en duel. Alors, celui qui va se battre en duel, il sait qu'il peut mourir le lendemain matin. Et toute la nuit, il se fait des promesses. Alors, il se dit, je vais écrire le roman que je n'ai jamais écrit, je vais cesser ma vie de débauche et perdre mon temps. Si je m'en sors, je ferai ceci, je ferai cela, je serai plus honnête. Finalement, le duel se passe, il en sort indemne, et le soir même, on le retrouve au bar, à la taverne à l'époque, à remener la même vie, à refaire la même fête, et à ne pas se mettre à écrire le roman ou la musique qu'il devait écrire, et à ne pas tenir les engagements de la veille. Et Proust dit, c'est parce que c'est la force de l'habitude. Donc pour qu'il y ait une vie d'après, il faudrait changer d'habitude. Mais ça, c'est plutôt interne quand même. C'est plutôt une décision personnelle de changer d'habitude.
Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Changer d'habitude, est-ce que, avec ces histoires de Covid, est-ce que depuis l'apparition du virus dans notre quotidien, vous avez changé vos habitudes alimentaires? Est-ce que vous faites plus vos courses alimentaires chez les commerçants de quartier?
Nous les faisions déjà chez les commerçants du quartier.
Donc ça n'a pas changé.
Pour ça, non.
C'est très bien. Vous avez pris vos marques, vous avez eu des changements.
Écoutez, là, je vis chez moi déjà très 90-10-15% du temps. Je m'occupe de mon fils qui joue du piano classique et donc qui passe 4 heures par jour au piano. Et donc, je suis avec lui et on a une vie très confinée déjà, j'allais dire, par notre travail, notre manière de vivre. On était déjà...
En autarcie, voilà, on pourrait dire.
Très, très habitué à être confiné. Là, je suis obligé de parler de la musique classique parce que quelqu'un qui travaille son instrument... alors, en plus, les pianistes qui ont la chance de pouvoir être solistes et de jouer complètement tout seul... Mais ils ont une vie quand même, c'était absolument réglé comme un sportif de haut niveau et à la maison. En fait, on reste des heures enfermés. Donc, j'allais dire, moi, j'ai la chance d'habiter au bord d'un bois, donc d'avoir de l'espace. Je dirais que ça m'a pas... Nous n'en avons pas beaucoup souffert. Bien sûr, ça a fait s'arrêter des projets. Le travail avec les autres, enfin, les concerts, des festivals, etc. Bien sûr, là, tout ce qui était en public s'est annulé, en tout cas déjà tout l'été dernier. Mais dans notre vie quotidienne, on avait vraiment une habitude de confinement volontaire. Ouais.
Est-ce que votre vision de l'autre a changé? J'ai bien compris, j'ai bien entendu que vous viviez, comme vous dites vous-même, confiné. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux également, on lit tous les jours beaucoup de polémiques. Est-ce que votre vision de l'être humain a changé depuis les histoires de Covid?
Non, pas vraiment. On s'aperçoit quand même que, par exemple, les réseaux sociaux, qui peuvent être très, très mauvais parfois, mais là, ça crée du lien quand même dans la période de Covid. Hein, ça a permis de...
Vous sentez plus de liens... Vous, que d'agressivité, par exemple?
Ah oui, oui.
Oui.
Oui. Mais voilà, moi j'ai la chance d'avoir une vie qui me permet de rester chez moi, j'allais dire, en permanence. Je me représente mal ce qu'ont vécu les gens qui, eux, vivaient dans des petits appartements. C'était quand même très long. Et puis tous les gens qui ont été privés de leur travail, de leurs relations. Pour vous donner un exemple, on peut très bien enregistrer chez soi un morceau de piano, le mettre sur les réseaux sociaux et avoir les réactions des autres, avoir des contacts et faire connaître ce qu'on fait quand même. C'est beaucoup plus difficile si vous êtes ingénieur ou si vous travaillez dans un bar où là tout s'arrête.
Bien sûr. Donc et j'ai là, peu de mal à... Le quotidien change vraiment.
Je comprends que les gens puissent mal le vivre, mais ça n'a pas été mon cas. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose.
Je vous propose tout de suite une première pause musicale. Je voudrais, Stéphane, que vous nous fassiez part de votre choix et bien sûr que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi de nous faire écouter cette chanson.
C'est une chanson du premier album du groupe Pacifique, qui en a fait deux, et qui n'a pas été exploité comme un single, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qui n'est pas sorti en 45 tours ou en CD, et qui n'a pas fait l'objet de passages de télé, de radio. Mais c'était, je pense, le morceau qu'on préférait.
D'accord.
Dans le groupe. Donc, je me dis, ben voilà, 30 ans après, il sera quand même
et passera sympa à la radio. Faire. Au moins, il va passer à la radio. C'est un morceau, donc, ce morceau, votre frère avait fait la musique.
Pas du tout. Alors, ce morceau, j'avais tout fait. Alors, ça, c'est vraiment très rare, parce que la plupart du temps, mon frère faisait beaucoup de musique et moi, beaucoup de paroles.
Oui.
Mais là, c'est un morceau que j'avais écrit complètement. Alors, bien sûr, il a participé aux arrangements, il a joué. Mais non, c'est pas pour ça que c'est mon préféré. Hein. C'est parce que globalement, on l'aimait beaucoup.
D'accord, on va l'écouter.
Qui vient, qui revient.
dans le style, ça, même si cette chanson n'est pas sortie, on replonge complètement dans les années 80.
Oui, je pense qu'il y a... Alors l'instrumentation est très classique, puisqu'il n'y a pas de synthétiseur, il n'y a que de la guitare. De la... Mais je pense que les voix, la voix est très caractéristique.
Oui, hein, c'est vrai que chaque décennie... On...
Oui, à l'époque, il y avait Mylène Farmer, Jeanne Masse, etc. Oui, il y avait quelque chose de commun dans ces voix quand même très aériennes, très pures.
Tout à fait. Tout à fait. Alors sur cette deuxième partie d'émission, c'est une nouveauté dans Ainsi va la vie. On va faire un petit portrait chinois. Donc, sous forme de questions, bien entendu. La première, si vous étiez, Stéphane, une personnalité politique.
Bon, alors, moi, je ne veux pas être prétentieux. Je ne me sens pas du tout fait pour être une personnalité politique. Je veux dire, étant né dans les années 60, j'ai beaucoup entendu parler de la Seconde Guerre mondiale. Hein, mes parents l'ont vécu. Et donc, une personnalité qui m'a marqué, c'est le général de Gaulle, évidemment.
Bien sûr.
Donc, il n'est pas question de dire que je serai le général de Gaulle, voilà. Mais vraiment, ces personnages, je dirais Churchill aussi, des gens qui ont eu des choix
qui ont
très, très difficiles à faire. Voilà. Et qui, surtout, qui ont une vision au-delà du chaos et du présent. Ça, je pense que c'est le signe des grands politiques. C'est-à-dire que, malgré que le temps présent soit totalement encombré, on n'en voit pas l'issue, eux, ils voient une issue, ils y croient, et ils vont dans une direction sans varier. Ça me paraît des qualités un peu exceptionnelles.
C'est-à-dire, à la limite, c'était des gens qui avaient une vision à long terme, qui travaillaient pour leur pays sur du long terme. Peut-être contrairement aux politiques actuelles qui travaillent sur du présent.
Bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Et puis, on avait. J'ai l'impression souvent que la communication a pris le pas sur la politique. Hein, c'est l'art de convaincre plus que l'art de faire.
De construire.
Voilà. Là, bon, il n'y avait pas le même environnement médiatique aussi. C'était beaucoup plus solennel. Si vous voyez une allocution du général de Gaulle à la télé, toute la France écoute, il n'y a qu'une chaîne. Et oui, mais après, ce sont quand même des gens qui ont traversé des périodes absolument terribles et qui avaient une vision de la sortie. Ça, c'est quand même des qualités qui ne sont pas données à tout le monde, je pense.
Stéphane, si vous étiez une couleur.
Alors, les couleurs, la ville, le pays du portrait chinois, pour moi, se tiennent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se tiennent. Alors, ça serait bleu, parce que j'aime la mer, j'aime les maisons blanches sur les îles, comme à Ibiza ou comme en Grèce. Donc oui, bleu, la mer, sans cesse renouvelée, comme dit le poète, on s'ennuie jamais.
Voilà, donc, Et un animal ?
Alors, bon, moi j'aime bien les chats, mais j'ai pas grand-chose à dire sur les chats. Mais il y en a un qui vient à la maison, qui est pas à nous, mais qui s'est installé chez nous et
l'indépendance.
Ça nous réjouit. Voilà.
C'est l'indépendance du chat que vous aimez ?
Oui, oui. Ça rassure les chats. Alors, je crois qu'il y avait une étude scientifique. Il paraît que caresser un chat rassure et
est bon pour la santé.
Voilà, c'est bon pour la santé.
Si vous étiez Stéphane, un végétal.
Quand je sors de chez moi au printemps, il y a deux énormes mimosas. Et les mimosas, donc ils fleurissent au début vraiment du printemps. Hein, il fait encore un peu froid et déjà il y a ces fleurs jaunes là et odorantes. Et je trouve que c'est très métaphorique parce que même si on est un peu blasé ou que les choses ne vont pas bien, quand je vois les mimosas, on se dit allez, ça repart.
Quand ça vous fait du bien. Voilà. C'est une nouvelle saison qui commence.
Oui.
Si vous étiez une ville, alors elle serait bleue ?
Non, moi je ne suis pas un très grand voyageur. Alors, y a plein d'endroits qui paraissent beaux, vus à travers les écrans. J'aime beaucoup une ville, c'est Palma de Mallorca.
Oui. Hein,
pour sa beauté, quand on arrive en bateau. Alors, moi j'essaie d'y aller tout le temps en bateau, pas en avion justement, et en bateau et d'arriver, de voir le port et la cathédrale. La nonchalance qu'il y a dans cette ville, bien sûr son climat, ce port de plaisance extraordinaire. Alors, c'est des villes où il y a vraiment une forte identité, mais en même temps c'est cosmopolite, parce que vous avez un port avec des bateaux qui arrivent et qui repartent, et vous avez l'impression que c'est un endroit précis, mais aussi que tout le monde s'y mélange. Alors, Voilà, c'est un endroit où j'aimerais bien vivre, je trouve. Sa taille humaine, c'est beau, il fait bon. Chopin y est allé.
Et si vous étiez un pays ?
Oh, j'aime beaucoup l'Espagne.
Oui.
Beaucoup aussi pour la musique, hein, parce que des compositeurs espagnols me touchent beaucoup, ainsi que mon fils, d'ailleurs, on partage un peu le même goût. Je pense à De Falla, à Ses nuits dans les jardins d'Espagne, à Albéniz, qui a écrit une suite sur toutes les villes espagnoles, où il y a d'ailleurs un morceau qui s'appelle Majorque. Donc les compositeurs espagnols ont beaucoup, ils ont une forte identité quand même. On sent les racines populaires derrière, on sent le flamenco que j'adore. Alors bien sûr, il y a le flamenco en plus. Donc, mon fils et moi, nous y sommes beaucoup rattachés par la musique et nous essayons d'y aller l'été. Alors on est allé écouter du flamenco à Grenade et à Cordoue et nous devions aller cet été à Séville en écouter aussi. Hein, c'est les trois villes où vraiment... Et le Covid, bien sûr, voilà. Alors, il a quand même changé des choses.
Il a quand même
nous a empêché de faire notre tour flamenco complet.
Complet. Ouais. Stéphane, si vous étiez une époque.
Mais, comme je vous disais, tout se tient finalement. Mes goûts musicaux sont très 19e siècle, c'est-à-dire le romantisme, en peinture, l'impressionnisme, et début 20e siècle, enfin première moitié du 20e siècle. Donc. Moi, je serais entre 1850 et 1950. Je trouve que c'était une époque très intéressante, autant en musique qu'en peinture qu'en littérature.
Alors, justement, parlant de littérature, si vous étiez un livre, hein.
Sans hésiter, La recherche du temps perdu de Marcel Proust, parce que c'est une tentative, j'allais dire, de ressaisir sa vie par l'art. Et il y parvient, Marcel Proust vit, puis après il essaie d'écrire sa vie et d'en trouver la vérité dans l'écriture. Donc il vit deux fois sa vie, une fois comme tout le monde, j'allais dire, de manière empirique, et la deuxième fois il la revit et il la comprend dans l'art. Et bon, c'est une tentation, c'est-à-dire c'est aussi... Pour un artiste, on essaie de ressaisir les choses, mais de les sublimer dans le beau.
Si vous étiez un film, alors je me tourne vers les jeunes, parce que maintenant, on regarde beaucoup de séries, alors je vais mettre une alternative. Si vous étiez un film ou une série ?
Alors moi, j'ai regardé par contre très peu de séries. Un film aussi, sans hésiter, ça serait Louis II, ou Ludwig de Luchino Visconti, pour la même raison. Que pour les livres un peu, parce que Louis II était un roi qui avait du mal quand même avec le réel et qui a essayé de faire de sa vie une œuvre d'art, en s'entourant d'artistes, de Wagner, de gens qui lui récitaient des poèmes et qui lui jouaient du théâtre dans sa chambre. Et de la même manière que Proust, c'était des gens qui voyaient dans l'art l'accomplissement de la vie. Alors évidemment, pour un roi, ça posait des problèmes, parce qu'il avait les affaires du royaume à gérer et il les fuyait. Il y a ce risque, oui, avec l'art, c'est de fuir un peu le réel, de ne pas trop s'occuper des autres autour et de poursuivre son idée artistique. C'est vrai. Mais bon, moi, je ne peux pas faire autrement. Je vois les choses... Quand je vois une scène naturelle, quand je regarde la nature, je vois un tableau. Je ne vois pas directement. Voilà, l'art construit notre vision aussi.
Et enfin, si vous étiez une gourmandise ?
Alors, qu'est-ce qu'un... Une chocolatine ou un pain au chocolat ?
Merci Stéphane, merci. C'est moi qui fais le choix de cette deuxième pause musicale. J'ai choisi de vous faire écouter « Au Toulouse » de Claude Nougaro. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce que actuellement, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver nos repères. On se promène dans la ville, elle n'a pas tout à fait la même ambiance qu'habituellement, parce que aussi c'est la reprise de l'émission Ainsi va la vie et que je suis très attachée à Toulouse. Pour toutes ces raisons, j'ai eu envie de. C'est peut-être un petit peu classique, mais c'est au Toulouse, c'est l'hymne national, enfin l'hymne de la ville. Et j'aime l'écouter. Et je voudrais quand même vous demander, avant qu'on la renvoie, ce que cette chanson représente pour vous, Stéphane ?
D'abord, je pense que j'ai entendu dans mon enfance, donc c'est une pièce de Madeleine de Proust. Hein. Et puis, bon, il y a l'art de Claude Nougaro, c'est-à-dire avec quelques traits, il saisit la ville, en tout cas la ville telle qu'elle était dans les années 60. Il y a les minimes, l'aéroport. C'est vraiment c'est comme une épure, c'est-à-dire on retrouve la ville en quelques mots, donc il y avait quand même un grand talent littéraire aussi.
On écoute.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse, je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rouge. Ma cité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne, ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leur ventouse. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile? Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse.
Toujours du bonheur que d'écouter cette chanson, vraiment. Stéphane, sur cette troisième partie d'émission, j'aimerais qu'on évoque votre quotidien, vos projets, Et j'aimerais aussi quand même savoir si la Covid, puisqu'on dit là, la Covid a bouleversé un petit peu des projets.
Alors, pour la Covid, oui, effectivement, et je peux citer un projet qui devait se réaliser durant ces vacances, puisque nous devions tourner un clip vidéo et avec trois pianistes toulousains, et qu'une des pianistes a le ECA contact, et donc on a dû annuler ce tournage. Et d'autre part, mon fils qui avait bien sûr, qui avait des concerts, des festivals cet été de piano, bon, tout cela a été annulé. Oui, ça touche quand même, enfin, ça touche de près tout le monde. Hein. Alors, nous reportons les choses. Évidemment, aujourd'hui, plus personne ne sait jusqu'à quand on doit reporter les projets. Hein, vu que voilà, il devait pas y avoir de deuxième vague, et puis il y en a une, et puis combien de temps durera-t-elle? Il y a très peu de visibilité, j'ai l'impression. Mais oui, ça nous touche. Oui, ça nous fait reporter des choses qui en plus sont pas faciles à créer, à mettre en place. Cette vidéo, par exemple, qu'on devait tourner, c'est un morceau de une pièce pour trois pianos composée par un jeune compositeur très brillant qui s'appelle Corentin Aparilly, qui a fait ses études au Conservatoire de Toulouse, puis qui a été pris au Conservatoire supérieur de Paris, qui a joué dans un quatuor très connu qui s'appelle le quatuor Harrod, qui a fait de brillantes études et qui s'est lancé ces derniers temps, qui a arrêté les concerts classiques, je dirais, et qui s'est lancé dans la composition. Et donc, il a écrit une pièce pour trois pianos qui devait être jouée avec donc mon fils, et puis aussi Cyril Kubler et Charlotte Machicot, qui sont aussi deux pianistes toulousains. Et filmé par Clément Burali, un jeune réalisateur aussi très, très doué, et aidé par une boîte de production qui s'appelle PixProd. Et évidemment, des projets comme ça, qui ne sont pas du tout des projets commerciaux, c'est-à-dire on ne cherche pas à vendre quelque chose, mais à mettre en valeur des jeunes artistes, des compositeurs, des vidéastes. Ce sont quand même des projets difficiles à monter, où tout le monde est bénévole. Et, voilà. Donc le Covid, oui, là, quand il nous fait repousser ce genre de projet, je l'ai su aujourd'hui, avant de venir au studio, qu'une des pianistes ne pouvait pas participer, donc on annule. Donc on est touché. Alors, c'est moins grave que les gens qui sont touchés.
Bien sûr.
Je veux dire qu'ils sont vraiment malades.
Bien sûr.
Mais on le ressent... Oui, tout le monde bientôt aura un exemple de projet abandonné ou de personnes autour de lui.
Oui, de projets abandonnés ou en tout cas retardés, c'est certain. Quel est le quotidien de Stéphane Després aujourd'hui?
Comme je vous l'ai dit, je passe beaucoup de temps chez moi. En ce qui concerne la musique, je dirais que je compose depuis des années des choses que je ne mène pas vraiment jusqu'au bout, faute de temps, mais qui sont très éloignées des chansons, bien sûr, de l'époque et de la variété, qui sont plutôt de la musique qui est instrumentale, qui naît du piano. Je ne désespère pas un jour de les enregistrer, peut-être avec l'aide de mon frère qui a son studio, et de les arranger.
Donnez-nous quelques nouvelles de votre frère. Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Alors, avec mon frère, nous avons travaillé quand même après le groupe Pacifique une dizaine d'années de plus dans divers projets. On a écrit pour Evangélie, on a produit une chanteuse qui s'appelait Feza. Et puis, au milieu des années 2000, en 2005-2006, moi, j'ai pris un peu de recul. Et mon frère a continué, lui. tout seul. Il s'est lancé dans la musique électro avec un certain succès, parce qu'en 2016, il a sorti un disque qui s'appelait Dimé avec un DJ toulousain qui s'appelle Jack Perry. Et ils ont bien marché quand même dans toute l'Europe. Ils ont obtenu un disque d'or en Finlande. Le morceau est passé sur beaucoup de radios. Et mon frère a toujours été un passionné, lui, de musique de danse. C'est-à-dire, quand il a écrit « Démon de minuit », son but était de faire danser les gens.
Il a réussi.
Oui. Et malgré qu'il ait, lui, une vraie culture classique, c'est-à-dire qu'il ait fait le conservatoire jusqu'au bout, il était contrebassiste, il a même joué avec l'Orchestre du Capitole quelques fois. Tandis que moi, j'avais une formation musicale beaucoup plus trouée, beaucoup plus aléatoire. Mais moi, j'ai toujours été attiré par la musique classique et mon frère toujours par la musique. Par la musique très populaire, et surtout, il aime beaucoup les musiques qui peuvent faire danser les gens. Donc, il continue, lui, mais alors, tranquillement. Hein, il a son studio chez lui, et il continue à produire des...
Il est toulousain ?
Il est toulousain, oui, bien sûr. Il habite en plein centre.
D'accord.
Grâce aux ordinateurs et la technique moderne, qui n'était pas le cas jusqu'aux années presque 2000... On peut maintenant faire de la musique chez soi. C'était pas pensable dans les années 80. Il fallait aller dans un studio. Donc voilà, moi, j'écris des musiques. J'aimerais bien les enregistrer, mais simplement pour me faire plaisir. Si ça peut servir d'illustration dans quelque chose, pourquoi pas. Mais voilà. Et ensuite, l'autre partie de mon quotidien, c'est de m'occuper de mon fils, qui est donc un jeune pianiste, mais classique. Et qui a, comme il a commencé très tôt, il rentre au conservatoire, il ne savait pas encore écrire, j'étais obligé de suivre, et je dirais que je me suis pris au jeu, parce que d'abord, j'aimais beaucoup la musique classique depuis
très
jeune.
Mais vous n'avez plus accès au piano maintenant chez vous ?
Pardon ?
Vous n'avez plus accès au piano avec votre fils maintenant ?
Ah non, je suis bien plus mauvais pianiste. Je n'étais pas un pianiste classique. Voilà. Un pianiste classique, c'est un sportif de haut niveau. C'est
bien
un peu
sûr.
Ça, c'est une technique.
Mais là, il doit être tout le temps dessus.
Ce n'est pas du tout les mêmes exigences pour composer ou écrire des chansons. Il n'y a pas l'exigence technique qu'il y a dans le classique. Hein. Moi, j'aime bien comparer le piano classique au patinage artistique. Voilà. Ouais. Vous essayez de faire quelque chose de beau, mais vous êtes toujours à la limite de tomber. Quoi. C'est un peu l'expérience de... Donc, alors mon quotidien, de m'occuper de mon fils, ce n'est pas simplement de l'écouter jouer, puis d'assister aux cours, parce que j'ai assisté à tous les cours depuis 9 ans. Donc j'ai fait mon conservatoire à 50 ans passés. Je dois rendre hommage d'ailleurs à sa professeure Véronique Grange là, qui l'a pris vraiment à peine 6 ans et qui l'a amené jusqu'au prix de conservatoire, qui devait d'ailleurs passer l'an dernier et que le Covid l'a empêché de passer. Vous voyez que voilà. Mais aussi, finalement, l'aspect, non pas showbiz, mais télé, etc., m'a rattrapé parce que... Il avait 8 ans, je crois, et il est allé faire un concours de piano à Paris. Et à la sortie, il avait gagné le concours. À la sortie, il y avait des gens de l'émission Prodige de France 2 qui sont venus nous trouver. Et ils nous ont dit, mais voilà, votre fils, il nous intéresse pour l'émission. Et moi, par réflexe alors du showbiz des années 80 et un peu 90, j'aurais dit non. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout quand mon fils passe à la télé. Alors, ils ont été stupéfaits parce que...
Oui, j'imagine que généralement, bien sûr.
Même si c'est le milieu classique, il est un peu plus distant, mais quand même. Et donc, ils m'ont expliqué, mais vous savez, il n'est pas pris. Il y a 800 candidats pour passer dans cette émission, cette année-là en tout cas. Et il va faire partie des 200 derniers. Il fera partie de la dernière audition, en gros. Bon, je me suis laissé convaincre en me disant, après tout, c'est un concours comme un autre. Ils vont prendre 5 musiciens sur 200 personnes. Il y a quand même peu de chances qu'il soit pris. Et puis finalement, nous sommes allés à Paris. Et il a été pris. Et là, je me suis trouvé devant cette question. Est-ce que mon fils, déjà si jeune, va aller faire une émission de télé ? Et à ce moment-là, j'ai appelé mon ami du groupe Gold, Bernard Mazoric, qui a été de bons conseils, parce qu'il m'a dit tu aurais pu refuser avant, mais maintenant qu'il est pris, c'est quand même difficile de ne pas y aller. Alors on a tenté l'aventure, finalement, c'était très bien. Et du coup, avec cette émission, d'autres invitations sont arrivées dans des festivals, dans des concerts, jusqu'à ce qu'ils jouent à la Lorraine en 2018 avec l'orchestre du Royaume d'Aragon. Et parallèlement, on s'est donc trouvé aussi à produire des images. Et donc, mon expérience du passé, si là, je ne la mets pas directement au service de la musique, parce que c'est mon fils qui joue, moi, je n'ai pas... Mais par contre, j'avais une expérience des images mon quotidien, là, c'est de... Il y a des jeunes créateurs, quand même, à Toulouse, et c'est d'essayer de les faire se rencontrer, par exemple, des vidéastes avec des compositeurs et avec des interprètes, et donc d'essayer de produire peut-être des vidéos, des images... de gens qui ne se rencontreraient pas naturellement. Voyez, vous n'avez pas de vidéastes qui vont au conservatoire chercher des pianistes et un compositeur
pour composer une musique. Bien sûr, évidemment.
Donc là, voilà, là, mon passé me sert un peu parce que, ayant vu plusieurs horizons différents, on peut essayer de provoquer des rencontres et de mélanger, pas les genres, mais de faire se rencontrer des gens qui peuvent construire quelque chose. Je pense que l'image a été un peu le parent pauvre en musique classique. Il y a le film de concert, bon, ça c'est très bien, mais des idées de vidéo vraiment tournées, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup, voilà. Mais petite parenthèse, il m'est arrivé d'en voir sur YouTube, notamment une russe, une pianiste russe qui est accompagnée.
Oui, c'est peut-être Katia Binatichvili ou...
Je ne sais plus.
Enfin, il y a beaucoup de pianistes russes. Hein,
il y a beaucoup de pianistes russes, mais je pense à ça parce que j'ai vu des vidéos, justement, la façon dont vous en parlez, ça me fait beaucoup penser à ça. Mais sinon, en dehors de ça, quels sont les projets, en dehors de Constant, de votre fils, pour vous, Stéphane? Les projets ou peut-être... Des envies qui ne sont pas encore concrétisées en projet.
Oui, non, l'envie que j'aurais vraiment, ça serait quand même de j'avais quelques mélodies accumulées au piano, que j'aimerais bien quand même finaliser, enregistrer, arranger, car... Là, ce ne sont pas des morceaux de piano solo. Il faudrait aussi de l'orchestre, de la batterie. Et donc, c'est vrai que quand on compose des mélodies, on entend un arrangement. Mais ça, ce n'est pas comme le piano classique où là, on peut tout jouer. Et il faut passer un studio pour le construire. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien ces mélodies-là qui date que j'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années, j'en ai quelques-unes, aller jusqu'au bout de... Vous voyez, c'est toujours un projet de musique, hein. C'est pas nécessairement pour le commercialiser, mais c'est d'abord d'aller jusqu'au bout.
Nous voilà déjà arrivés à la fin de l'émission, Stéphane. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment d'avoir accepté mon invitation, parce que j'avais très envie de vous découvrir, je pense... vous connaître un petit peu mieux grâce à cette petite heure passée avec vous. Et puis le portrait chinois, c'est vrai que c'est assez intéressant pour découvrir quelqu'un. Alors merci, je vous souhaite une excellente continuation et que des jolies choses, et pour Constant bien sûr, et pour vous.
Merci à vous, Irène.
Au revoir.
Sur les reins des pins. passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.